En 2022, les rendez-vous de la francophonie célèbrent les traditions.
Que ce soit les traditions familiales, orales ou culinaires, ça fait partie de nos vies.
Nive et moi, Elisapi, sommes les porte-parole des RBF 2022.
Et on part à la découverte des traditions.
Bonjour Nive, alors on continue cette super discussion au rendez-vous. Évidemment, on parle des traditions. Et j'aimerais quand même poser la question par rapport à les traditions orales aussi, parce que c'est tellement, je pense, c'est tellement important. En tout cas, dans mon cas, on est une tradition très orale. On n'a pas écrit, les Inuits, on n'écrivait pas. Alors, toutes les histoires qu'on connaît, ça a été transmis. Alors, la transmission est tellement importante à ce moment-là. Et toi, as-tu des traditions orales dans ta vie personnelle ou... en as-tu déjà vécu,
Nive? Oui, bien sûr. Nous aussi, la tradition orale est super importante, autant religieusement que culturellement. Tu sais, nos parents nous ont toujours raconté des histoires, que ce soit, tu sais, je ne sais pas moi, on parle dans les fêtes religieuses, il y a toujours l'histoire avant d'aller lire le texte. Là, tu sais, à la période de Noël, c'est la fête de Hanouka. Très jeune, on nous explique que l'armée des Maccabées s'était battue contre le roi Antioche. Et tu sais, c'est l'épopée là pour nous, ils ont sauvé le judaïsme, donc ça, tout jeune tu le sais, tu sais, les histoires de la fête de Pâques par exemple, la sortie d'Égypte, tu sais, Moïse, les 10 commandements, on nous raconte ça avant même qu'on sache lire. Donc nous c'est très, il y a beaucoup qui passe par la tradition orale, parce que depuis qu'on est enfant, on essaie de nous soumettre à ce qu'on est, parce qu'il y a plein de questions, tu sais, tu te demandes pourquoi lui fait ça et pas moi, là. Tu sais, c'est le début. Surtout quand tu vis un peu hors de la communauté. Tu vois, on habite au Québec. Je ne veux pas, moi, quand j'allais jouer au hockey à la ville, tu sais, souvent, j'étais le seul juif. Et puis, tu vois que les gens, ils n'ont pas la même expérience que toi. Ils ne connaissent pas les mêmes histoires que toi. Mais en même temps, on avait l'histoire du Père Noël. On avait l'histoire de, tu sais, la fée des dents. C'est super important, je trouve, l'oral, parce qu'un enfant, ça commence d'abord à l'oral. Il sait ni lire ni écrire. Il prend pour du cash tout ce que tu lui dis. Alors que ce soit, fais attention, le bouloulou, il va venir si tu fais pas dodo. Jusqu'à, je veux dire, c'est ultra important chez nous, la tradition orale. Et même religieusement, il y a la Bible, la Torah qu'on connaît, les 5 livres, la Genèse, Exode, etc. Mais la grosse majorité des lois dans le judaïsme ont été données oralement depuis Moïse. Donc, elles ont été retranscrites. Ça ne fait même pas 1000 ans qu'ils ont colligé ça de peur de le perdre. Mais à la base, tout ce qui est légal, on va dire, code civil dans le judaïsme a été transmis oralement. Donc, c'est très, très, très présent. Et mon père, en plus, il est chef scout. Alors, il raconte bien les trucs. Donc, moi, quand j'étais petit, mon père, il racontait des histoires. Tu sais, de petits garçons qui va et dans la forêt qui rencontre des animaux. Ça, c'était l'histoire de base de mon père qu'il improvisait là tous les soirs. Et là, il fait avec mes enfants, mes neveux, etc. Donc, ça a souvent été là.
Alors, c'est là que ça vient, cet amour, finalement, pour raconter des histoires.
On est un peu conteurs, toute la gang, là. Tu vois, on est Québécois, finalement. Fred Pellerin, tasse-toi, les Marocains, ils arrivent.
Ben, c'est drôle, hein, parce que quand on parlait tantôt des noms, pour moi, dans mon cas, évidemment, avec mes 3 enfants, ils ont tous nommés par les la tante, grand-père, le frère, le père. Alors, ils ont toute leur histoire aussi que je transmets, qu'on transmet. Et on aime ça leur raconter leurs caractéristiques, comment ils sont. Alors, il y a un lien qui est tellement important, ou des histoires qui viennent de ces gens-là, les anecdotes, c'est tellement important de leur rappeler souvent ces choses-là. Puis aussi, quand j'étais jeune, mais jusqu'à maintenant, les aînés, ils lisent pas une histoire, un livre, ça n'existe pas vraiment.
Non, ça sort.
Ils racontent des histoires et ils nous apprennent aussi à à vivre dans un rythme différent qui est celle des aînés. Alors, je pense que les enfants ont une capacité d'écouter. C'est souvent, quand on est ici, évidemment, dans le monde occident, je dirais, il faut trouver une façon de garder l'enfant pour qu'il puisse écouter, trouver une façon pour qu'il puisse nous être focus sur nous. Mais chez nous, ben, l'enfant doit apprendre très jeune à écouter et
Ouais.
vraiment être au moment présent. Alors, c'est là que l'aîné est vraiment, c'est ça, est le centre de ces traditions orales aussi. Alors, je pense aussi, il faut jamais oublier que les aînés sont le centre de nos univers, là. Tandis que dans l'Occident, ben, l'aîné, il est un peu, on le voit pas souvent, tu sais. Alors, je pense que c'est tellement des petites choses comme ça qui sont liées, tu sais, quand on parle de tradition orale, évidemment, on parle aussi à qui on passe du temps, tu sais. Mais
C'est
j'avais
génial.
une question, moi, que je trouve quand même important quand on parle de tradition orale, là. Tradition en général, est-ce que tu as des traditions dans le cadre de ton travail? Là, je suis intéressée.
Moi, écoute, j'ai des traditions qui m'ont été léguées par ceux qui sont arrivés avant moi. Moi, je suis humoriste, par exemple. Bonsoir tout le monde, ça va bien au Québec. C'est quand même la base de commencer un set de stand-up. Et je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Je ne pense pas que je serai le dernier non plus. Il y a des traditions orales dans le sens où t'sais, chacun a ses petites superstitions. Il y en a qui vont répéter leur texte avant. Moi, par exemple, j'essaye d'être le moins sur ma performance avant de performer. Je parle à tout le monde, je suis derrière dans les loges, je rigole, j'essaie d'être le plus relax, le plus naturel possible pour après monter sur scène et garder ce naturel-là. Il y en a d'autres qui s'isolent, qui lisent leurs textes, qui répètent. Donc, ça va, je pense que ça va plus vers la superstition, mais la tradition orale, surtout au Québec, surtout en humour, il y a des gros pionniers avant nous qui sont arrivés. Et je te dirais, elle est aussi forte au Québec, peut-être qu'à New York. Tu vois, le stand-up, c'est new-yorkais, on va dire. Okay? Ça a commencé aux États-Unis, mais ça a commencé vraiment à New York. Et c'est eux qui ont donné les bases de ce que ça va être dans le futur. Et 50, 60 ans après, 70 ans après, tout le monde essaye de revenir à ça, au stand-up. Quelqu'un qui est là, qui dit des choses, même en France, où c'était une tradition beaucoup plus théâtrale, beaucoup plus quatrième mur, aujourd'hui, ils vont vers vraiment à l'américaine, quelqu'un qui communique avec des autres. Et je trouve qu'au Québec, ça me fait le même effet que le rap. Par exemple, le rap américain des années 80-90 a résonné ultra fort en France. Parce que ces gens-là vivaient la même situation. Il y avait l'équivalent des ghettos, il y avait l'équivalent de tout ça. Donc, ça a été très naturel. Quand tu écoutes du IAM, du NTM, ils ont pas à avoir honte par rapport à ce qui se faisait aux États-Unis, là. C'est de la bombe atomique. Les rythmes sont malades, les beats sont incroyables et les paroles aussi. Et tu réalises que là, c'est une autre langue. Mais finalement, cette gymnastique de jouer avec des mots. Encore une fois, à l'oral, elle a collé super fort en France autant qu'aux États-Unis. Et je trouve que dans le stand-up, ça l'a fait aussi entre les États-Unis et le Québec, plus particulièrement. Je trouve que la tradition de stand-up au Québec, d'humour, tu le vois dans le public. Les gens savent quoi répondre. Quand tu demandes une question, les gens savent comment se comporter. Alors que j'ai joué en Belgique, par exemple, et je me rappelle, j'ai le souvenir de deux filles qui prenaient un verre. Qui discutaient, genre tranquillement. Et là, tu dis, madame, c'est parce qu'il y a un show, ben, continuez. Nous, on est entre copines, on va discuter. Tu sais, elle ne comprenait pas le problème, alors qu'au Québec, ça arriverait jamais. Là. Jamais, jamais, jamais. Tout le monde sait comment se tenir, entre guillemets, dans un show d'humour, quoi. C'est ça.
Moi, dans mon travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment. Je ne sais pas si on appellerait ça les traditions, mais il y a une façon de faire parce que je fais mon spectacle. Je suis une interprète, mais je chante mes chansons que j'ai écrites, que j'ai vécues. J'amène beaucoup ma culture, ma façon de voir des choses, l'histoire. Je suis aussi là pour essayer de faire comprendre que au-delà les Inuits, mais il y a un être humain, une femme derrière ça, puis le côté humain, c'est tellement important pour moi. Alors, pour pouvoir aimer faire ce que j'aime faire, faire la scène, la chose que j'aime le plus faire au monde entier, j'ai dû aussi trouver le juste milieu pour être bien à long terme. C'est que, tu sais, d'essayer de faire la star dans ma loge avant le show, d'essayer d'être très concentré sur ce que je vais dire, comment je vais faire les choses. Ça marche pas trop quand tu fais des spectacles dans le Nord, par exemple. Je connais tout le monde, c'est toute ma famille. Alors, j'ai appris que mon équilibre, c'est vraiment comme toi, c'est d'être au moment présent, de pas trop avoir un truc trop rigide qui va me déstabiliser, si, tu sais, d'être capable
Ça va
d'aller.
pas.
Oui, de s'adapter à tout. Puis aussi, évidemment, le plus important, c'est de connecter totalement avec mes musiciens avant de monter sur scène. Et je leur dis souvent, je joue le rôle de la maman, tu sais, dans le sens, c'est moi qui lead, c'est moi qui va leur montrer si jamais on a l'impression que ça va pas bien sur scène, puis on perd le public, il arrive quelque chose. Ben, je leur dis tout le temps, si tu fais une erreur, là, moi, je m'en fous. Parce que souvent, le truc qui on a peur, c'est de rater quelque chose. Et les musiciens, ça peut les déstabiliser. Et là, quand un musicien est déstabilisé, on l'entend. Alors, moi, je suis toujours là pour dire, tu sais quoi? On fait juste être au moment présent, puis on traite tout ce qu'on veut. Alors, oui, moi,
comme disaient les Rolling Stones, c'est Keith Richards, je crois, it's good enough for rock and roll.
Exactement. That's it. C'est tellement ça que, comme Leonard Cohen dirait, d'essayer de pas trouver la perfection parce que c'est ça qui va être une fausse piste. T'sais. Alors,
Mais
être au moment présent, je pense, ça fait partie de mes.
c'est un faux idéal de chercher la perfection. Tu sais, c'est des bêtises là, mais ils montrent des photos sur Facebook des fois. Voilà cette star que tu connais. De quoi elle aurait l'air si elle suivait les proportions parfaites, entre guillemets, de ce que la perfection. La plupart du temps, ils sont vraiment laids quand c'est parfait. C'est leurs petits défauts, leurs petites imperfections qui font qu'ils sont spectaculaires, autant physiquement que dans leur œuvre. Tu sais, Picasso, avant de faire ce qu'on connaît de Picasso, il savait dessiner parfaitement un oiseau de façon anatomiquement parfaite. Mais ce n'est pas Picasso, ça c'est une photocopieuse, on s'en fout. Et là, après, il te fait du cubisme, il a révolutionné l'art. Donc, la perfection, ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout le temps net. Je pense que c'est un sentiment. Est-ce que, comme tu dis, moi j'ai des soirs où j'ai des blancs de mémoire, où j'ai bafouillé, mais ça a créé un show parfait parce que le public et moi, on était ensemble, on a vécu quelque chose et on se rappelle toujours du sentiment qu'on a eu, pas de ce qu'on a écouté. Si je te dis
C'est
de
tellement.
dire les textes d'un film, tu t'en rappelles pas, mais ce que tu as ressenti en sortant avec ton popcorn, ça, sûrement tu t'en rappelles.
Ouais, puis aussi, je pense que c'est ça aussi le dans nos traditions, évidemment, quand tu parles de tes traditions, c'est d'être capable d'être capable de s'adapter. Je pense que c'est la plus belle chose qu'il faut avoir, d'avoir l'instinct, tu sais, l'instinct. Et on continue toujours avec Nive. On parle de tradition orale et on reçoit Karim Achab, PhD linguistique, professeur de linguistique et FLS, département de linguistique, Institut des langues officielles et du bilinguisme, Université d'Ottawa. C'est très long, mais c'est impressionnant. Alors voilà, on continue sur ces discussions.
Alors, on va tout de suite partir avec la première question. Bonjour, docteur Achab. Alors, la première, comment ont débuté les traditions orales?
Alors, toutes ces questions-là liées à l'émergence des domaines qui sont liés à la cognition sont très, très difficiles à déterminer, mais on a à peu près une idée. L'émergence des traditions orales doit être liée impérativement à l'émergence de deux facteurs. Le premier, c'est le langage, c'est-à-dire la capacité linguistique. Et le deuxième, c'est la conscience. Quand je dis la conscience, par exemple, on a beau être intelligent, mais les animaux, par exemple, ne savent pas qu'un jour, ils mourront ou bien ils vont mourir. Alors que les humains, donc, c'est pour ça que cette question de conscience et de langage sont intimement liées et elles sont, l'une conditionne l'autre. Et donc, ce ne sera pas une surprise si je vous dis qu'ils ont émergé en même moment. La capacité du langage, c'est-à-dire à supposer aussi la maturation biologique aussi de la faculté du langage biologique, c'est-à-dire dans le cerveau, l'émergence des fonctions linguistiques, ben, ça a commencé à peu près il y a 2 millions d'années. C'est-à-dire il y a 2 millions d'années, le langage de façon articulée a déjà émergé chez les humains. C'était ce qu'on appelait l'homo habilis. D'ailleurs, habilis veut dire intelligent. Et cette intelligence-là est liée à la fois au langage et à la prise de conscience. La prise de conscience reliée à la spiritualité, bien avant les religions, c'est-à-dire lorsqu'ils ont pris conscience que les êtres qui meurent doivent être dans un sens protégés parce qu'ils vont aller dans l'au-delà et que cet au-delà représente un univers. C'est presque une deuxième façade de la vie qu'on mène. Donc, toutes ces questions-là ont aidé à l'émergence des traditions orales qui, grosso modo, consistent à d'abord à communiquer une forme de savoir comme des conseils, la sagesse, mais aussi des récits. Donc, vous avez bien fait de mettre tradition orale au pluriel parce que il y a l'aspect spirituel, c'est-à-dire la spiritualité sous forme de mythe, dans un premier temps. D'ailleurs, même dans les religions qu'on appelle du livre, ce sont des mythes. Il y a sous forme de récits. Donc, tout ça nous renseigne sur la richesse de ces traditions orales, notamment un type de tradition orale, c'est le récit. D'autres sont sous forme, par exemple, ça véhicule la poésie, d'autres, ça véhicule une forme de philosophie. Donc, il y a tout un ensemble de traditions orales. Donc, ça peut nous donner un peu une idée. Cette émergence est faite de façon progressive, bien sûr. C'est pas venu du jour au lendemain. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps par rapport à cette première question.
C'est un super premier temps, en tout cas.
C'est vraiment assez drôle hein, quand tu réfléchis à ça, tu dis, oh, j'aurais aimé ça être les premiers peuples qui réalisent qu'il y a les esprits, tu sais, aller la vie la vie après la mort, de réaliser, oh, ça devait être magique ce moment-là. Dans quel pays ou culture la tradition orale est-elle plus forte? Je vais deviner, mais bon, je vous laisse répondre à cette question.
Oui, c'est souvent, on cite souvent, on dit que les castors n'ont pas communiqué la façon de faire, mais ils ont tous la même façon de faire les barrages, par exemple, sous l'eau. Et pourtant, personne ne leur a dispensé cette façon, donc c'est codé, c'est comme si c'était programmé biologiquement qu'à un moment donné, ils vont arriver à ce procédé. C'est la même chose avec les humains. Ces questions-là se sont posées lorsque les linguistes ou les historiens du langage qui cherchaient à savoir ou à comprendre comment le langage a émergé, ils se sont tous posé ce genre de questions. Est-ce qu'il y avait un endroit spécifique où ce langage a émergé. Donc, vous, votre question, c'est est-ce qu'il y a, il y avait un endroit spécifique où les traditions orales ont émergé? Eh bien, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est toujours de dire que à un moment donné, ces humains occupaient un territoire délimité et puis par la suite, ils se sont éparpillés. Et ils ont pris avec eux ce qui était déjà créé. La deuxième hypothèse, c'est de dire comme l'anecdote des castors de tout à l'heure, étant donné qu'ils avaient le même bagage biologique qui a abouti au cerveau, mais quand on dit le cerveau, c'est surtout le système cognitif, c'est-à-dire les parties du cerveau qui permettent de réfléchir, de communiquer, de se soucier du lendemain. Donc, étant donné que tous les humains étaient dotés de ces capacités sans aucune distinction, je dis ça parce qu'il y en a qui disent qu'il y a une différence entre le cerveau des sociétés qu'on appelait jusqu'à une date récente primitive et les sociétés avancées. Eh bien non, c'est secondaire. Toute cette différence-là, ce sont secondaires, c'est-à-dire vous mettez les sociétés développées dans les mêmes conditions des sociétés à tradition orale, ils vont finir par arriver au même mode de vie. Et puis, vous sortez ou bien vous mettez les mêmes conditions, les sociétés qu'on appelle la tradition orale dans les mêmes conditions que les sociétés avancées. Bien sûr, en leur donnant, mais quand je dis les conditions, ça veut dire que ce n'est pas juste l'environnement, eh bien, ils vont aussi arriver aux mêmes conditions.
Donc, comme les castors, ça fait partie de nous. On est voué comme animal pensant à être, à communiquer notre passé, notre expérience aux générations futures, quoi.
Exactement. Et je dirais même, c'est une condamnation parce que l'instinct de communiquer est très fort et de se soucier aussi de ces traditions, surtout lorsqu'ils sont reliés à la spiritualité. Mm-hmm. Je ne dis pas religion parce que religion, c'est une vision très restreinte et restrictive de la spiritualité. Donc, quand on sait que ces traditions-là sont souvent, même s'il s'agit de la poésie, même s'il s'agit de la geste, même s'il s'agit d'un récit de la vie quotidienne, il y a toujours un souci primordial qui est de nature spirituelle dans ces sociétés à tradition orale. Mmh. Pour finir, je me suis un peu éloigné de la question, mais en même temps, j'ai répondu au début en disant qu'on est doté du même système. Donc, à un moment donné, cette fonction a émergé, donc on va l'utiliser et puis elle est utilisée de la même manière partout. Maintenant, il y a un point que j'aimerais rajouter, c'est que les traditions, ce qu'on appelle les sociétés à tradition orale, ils accordent la primauté au verbe et non pas aux techniques. C'est pour cela que sur le côté verbal, quand je dis verbal, notamment les traditions orales, toute la sagesse que ça véhicule, ils sont très avancés, mais moins avancés par rapport à la technologie. Et les sociétés modernes, c'est un peu l'inverse. Ils ont délaissé ou n'ont pas atteint le niveau de cette sagesse, de ces traditions orales, mais ils sont avancés sur l'aspect technologique. Et on sait que l'aspect technologique nous éloigne de l'humanité, même s'il y en a qui disent que l'humanité, c'est juste une étape. Déjà, ça fait peur de l'entendre et de le dire. C'est juste une étape, ça veut dire qu'elle est vouée à disparaître. Mais les sociétés à tradition orale sont enracinées dans cette humanité. C'est-à-dire, d'un point de vue technologique, ils n'ont pas développé une technologie qui va les éloigner de ces aspects-là. Et en même temps, ils ne lâchent pas leur tradition orale, sauf s'ils sont menacés, comme c'est le cas aujourd'hui, si on prend les sociétés autochtones en Amérique du Nord, la menace, elle est de tout point de vue. La menace parce que on a déstructuré un peu ces sociétés-là. Ils ont perdu confiance parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pris en charge un peu l'étude de ce domaine. Et en même temps, il y a tous les vices que mène une société moderne sont là, sont à leur portée. Donc, ceci représente une menace.
Vraiment très intéressant
Quand on s'inscrit à votre cours quand? Moi, je veux m'inscrire là. C'est quand qu'on vient?
C'est fascinant. Mais c'est sûr que moi, Kiki et Inouk, quand on parle de la dernière fois, on a parlé avec Karim comment on doit s'adapter dans la modernité, comment on a quand même toujours été très innovateur et moi, j'ai confiance, effectivement, la technologie, il prend beaucoup de place dans nos vies, même dans le Nord, même si j'ai de la misère à essayer d'envoyer une chanson à MP3 à mon frère parce que l'Internet est vraiment très lent dans mon village, mais bon, hein, on essaie de s'adapter là-dedans, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Nakourmé Morialouk.
Merci beaucoup, Dr. Hacham.
Avec plaisir.
Vous avez envie de vous partager vos traditions ou apprendre plus?
Visitez le site web des rendez-vous de la francophonie au rvf.ca.
Bon rendez-vous!